Nous voici dans l'histoire de France.
Et pas seulement dans l'histoire de France.
La ratification de Maastricht, une saga.
Très convoité pour sa position sur la Meuse, Maastricht put à subir une vingtaine de sièges. C'est au cours de l'un d'entre eux, mené par Louis XIV, que D'Artagnan, le célèbre mousquetaire, perdit la vie en 1673, ce qui n'empêcha pas le roi Soleil de pénétrer victorieusement dans Maastricht. C'est également devant Maastricht que fut prononcé par le comte d'Anteroche le mot célèbre « impossible n'est pas français ».
Dans la paisible province néerlandaise du Limbourg, c'est décidément un lieu de conflit. Le nom de la ville lui-même prêtera à affrontement. Les adversaires du traité s'entendront pour prononcer Maastricht. Ses partisans diront Maastricht. Mais d'abord, comme dans les peintures de bataille, tentons un panorama. Quand les 12, ils ne sont alors que 12 dans la communauté économique européenne, se réunissent dans la ville en décembre 1991, le processus de dislocation de l'URSS s'achève, celui de la Yougoslavie commence. À Maastricht, le chancelier Kohl et le président Mitterrand, même s'ils sont en désaccord sur cette question yougoslave, affichent leur détermination commune. On s'interroge certes sur la capacité de l'Allemagne à faire face alors aux conséquences économiques de la réunification, mais si on resserre l'objectif sur la France, il faut bien constater qu'elle suscite aussi bien des questions. Le seuil des 3 millions de chômeurs vient d'être franchi. Pierre Bérégovoy, nommé Premier ministre après l'épisode Cresson, est mal assuré de sa majorité dans une assemblée en dernière année de mandat. Et encore, l'opinion ignore-t-elle alors l'état de santé du président qui va s'aggraver au long de l'année qui vient. Tout commence donc à Maastricht, si nous prononçons ainsi, c'est sur la recommandation des autorités néerlandaises.
Maastricht, dont le nom signifie « passage sur la Meuse », a été fondé par les Romains pour servir de relais entre Bavay et Cologne. Par la suite, la ville, qui occupe un site très convoité, a changé une vingtaine de fois de possesseur. Ces derniers siècles, elle fut successivement espagnole et française, avant de devenir néerlandaise. À égale distance, à peine 30 km d'Aix-la-Chapelle et de Liège, Maastricht est au carrefour des cultures et des langues allemandes, françaises et bien sûr néerlandaises.
Le Maastricht avait pendant plus que 5 siècles une double souveraineté, celle des princes-évêques de Liège et celle des ducs de Brabant. Et après, Maastricht était la capitale d'un département français.
Actuellement encore, la langue française est assez bien comprise à Maastricht. Les habitants de Liège y viennent volontiers faire leurs achats et lors du marché du vendredi, les prix sont indiqués en florins et en francs belges.
Le traité, tient le bourgmestre lui-même, dit Maastricht, signé officiellement le 7 février 1992, transforme la communauté économique européenne en communauté européenne. En réalité, des 7 titres qu'il comporte, c'est celui concernant l'économie et la future monnaie unique qui abolira le franc belge et le florin, qui est le plus abouti. François Mitterrand a persuadé Helmut Kohl d'accepter celle-ci, qu'on dénommera provisoirement écu. Mais Kohl a persuadé Mitterrand d'adopter pour la gérer le modèle de la Bundesbank. Non seulement l'établissement siégera à Francfort, mais il sera dirigé par des experts totalement indépendants du pouvoir politique. Un calendrier d'entrée en vigueur est fixé. Ce n'est pas le cas en matière politique. Les orientations décidées ne sont pas prêtes pour la plupart de devenir effectives, sauf ce qui concerne l'élargissement du nombre et des pouvoirs du Parlement européen. Mitterrand a persuadé Kohl d'accepter le principe d'une politique de sécurité et de défense commune, mais elle se traduira surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les trafics. Quant à la conception fédérale que défendait le président français en matière sociale, elle se heurte à l'opposition frontale de Margaret Thatcher, qui parle déjà d'un traité de trop. L'opinion française, au début de 1992, est d'abord impressionnée par la combativité de François Mitterrand et les avancées obtenues. Avancée ? Non ! Reculade ! Dénonce Marie-France Garraud. Depuis longtemps, l'ancienne conseillère de Jacques Chirac est une écuyère redoutée du combat anti-européiste.
Je pense que c'est un mauvais traité sur une grande affaire. Tout le monde sait que la majorité des Français sont favorables à la construction européenne. C'est vrai, ce n'est pas un mot. D'ailleurs, la construction européenne, elle est conduite depuis 35 ans. Elle existe. Nous ne sommes pas dans le néant européen. Il y a un système monétaire européen, il y aura un grand marché unique, il y a des institutions communautaires, tout cela existe. Et puis il y a un traité de Maastricht. Et ça, c'est un mauvais traité. C'est un mauvais traité d'abord parce qu'il est hypocrite. Il ne dit pas ce qu'il veut faire. ça a amené le gouvernement à bouger un peu, c'est fédéral, non c'est pas fédéral, si c'est un peu fédéral. Donc nous abandonnons notre souveraineté dans ce traité, mais on ne nous le dit pas. On nous dit c'est un problème technique, on va régler un problème technique. Il est mauvais d'autre part, parce qu'il construit une Europe technocratique, c'est-à-dire une Europe de fonctionnaires. Une Europe dans laquelle les peuples ne participent ni à la construction du corps du traité, ni à la suite de ce qui se fera. Et il est mauvais parce qu'il a été mal négocié. Il a été mal négocié parce que le président de la République était pressé. Il avait besoin de ce traité. Il avait besoin de ce traité parce qu'il voulait d'abord bouteler cette affaire qui correspond à une tendance, à une volonté très ancienne chez lui. Il a toujours eu cet esprit européen qui consiste à constituer un ensemble dans lequel les responsabilités sont un peu diluées. Après tout, de l'international socialiste à l'international européenne, il n'y a qu'un petit saut. Il voulait le faire assez vite pour, si j'ose dire, se couler dans la popularité européenne. Alors, au lieu de négocier un bon traité, au lieu de discuter des garanties sur nos intérêts, nous avons tout avalé.
En France, le Conseil constitutionnel observe que trois de ces clauses supposent modification de la Constitution. Une réunion du Congrès à Versailles s'avérerait nécessaire, mais il faut qu'auparavant chacune des deux chambres accepte ce projet de révision et dans les mêmes termes. Alors que le débat est proclamé à l'Assemblée nationale, Jacques Chirac ne prend pas assez garde aux intentions d'un de ses lieutenants, l'incontrôlable Philippe Séguin. Le député, maire d'Épinal, non content de préparer avec Marie-France Garraud un livre anti-Maastricht, dépose une exception d'irrecevabilité. Les clauses du traité mises en débat ne mériteraient pas examen car elles seraient d'emblée anticonstitutionnelles. Il s'assure ainsi la possibilité d'ouvrir la séance et de fixer les orientations. Nous sommes le 5 mai 1992. Ce soir-là a lieu une demi-finale de foot. La tradition est de tarder l'ouverture de la discussion pour permettre aux parlementaires de la regarder. Mais les tribunes de Furiani à Bastia s'effondrent. La séance s'ouvre donc sur une minute de silence. 200 députés sont présents. Jacques Chirac, embarrassé par l'échappée de Séguin, a préféré ne pas venir. Le député des Vosges, aidé par un petit commando, où figure Henri Guénaud, plume déjà connue, a écrit, réécrit ce texte qui deviendra historique. Il y a peu, au Vieux Colombier, Bruno Raffaelli nous l'a restitué. Attention, Philippe Séguin va parler 2h30.
L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution 1992. C'est littéralement l'anti-1789. Je sais bien que l'on veut à tout prix minimiser les enjeux et nous faire croire que nous ne cédons rien d'essentiel en ce qui concerne notre indépendance. Il est de bon ton aujourd'hui de disserter à l'infini sur la signification même du concept de souveraineté, de le décomposer en menus morceaux, d'affirmer qu'il admet de multiples exceptions, que la souveraineté monétaire, ça n'est pas du tout la même chose que l'identité collective, laquelle ne courrait aucun risque, ou encore que l'impôt, la défense, les affaires étrangères, au fond, ne jouent qu'un rôle relatif dans l'exercice de la souveraineté. La méthode est habile. En présentant chaque abandon parcellaire comme n'étant pas en soi décisif, on peut se permettre d'abandonner un à un les attributs de la souveraineté sans jamais convenir qu'on vise à la détruire dans son ensemble. Car il s'agit là d'une notion globale indivisible comme un nombre premier. On connaît l'argument. Il nous faut faire l'Europe, donc il nous faut concéder une partie de notre souveraineté. Comme si cette relation causale allait de soi. Comme si le respect des souverainetés interdisait la coopération, l'ouverture, la solidarité. comme si les États souverains en étaient fatalement réduits à un splendide isolement et condamnés à une politique frileuse de repliement sur soi. On pourra toujours objecter, bien sûr, que tout cela n'est pas très important, puisque les traités ne sont jamais eux-mêmes totalement irréversibles et que, le cas échéant, chaque membre pourra toujours les dénoncer en bloc. Il ne faut pas rêver. Quand, du fait de l'application des accords de Maastricht, le coût de la dénonciation sera devenu exorbitant, le piège sera refermé. Et demain, aucune majorité parlementaire, quelles que soient les circonstances, ne pourra raisonnablement revenir sur ce qui aura été fait. Craignons alors que, pour finir, les sentiments nationaux, à force d'être étouffés, ne s'exacerbent jusqu'à se muer en nationalisme et ne conduisent l'Europe, une fois encore, au bord de graves difficultés. Car rien n'est plus dangereux qu'une nation trop longtemps frustrée de la souveraineté par laquelle s'exprime sa liberté, c'est-à-dire son droit imprescriptible à choisir son destin. Comme il faut bien nous apaiser, voilà qu'on nous promet de respecter les identités nationales en cherchant à nous convaincre que ces dernières sont trop fortes pour que le creuset fédéraliste les menace de disparition. Des concessions nous seront faites concernant, sait-on jamais, nos fromages et quelques-unes de nos coutumes, parce que le folklore ne dérange personne. Jamais un mouvement folklorique n'est devenu révolutionnaire. On nous laissera peut-être la Marseillaise, à condition d'en changer les paroles, parce que ces farouches accents comportent des dangers et rappellent à notre peuple son histoire et sa liberté. Il est d'ailleurs tout à fait significatif d'avoir choisi le mot « identité » pour désigner ce qu'on consent à nous laisser. On parle de l'identité lorsque l'âme est déjà en péril, lorsque l'expérience a déjà fait place à l'angoisse. On en parle lorsque les repères sont déjà perdus. La quête identitaire n'est pas une affirmation de soi, c'est le réflexe défensif de ceux qui sentent qu'ils ont déjà trop cédé. En ne nous laissant que l'identité, on ne nous concède donc pas grand-chose. En attendant de ne plus rien nous concéder du tout.
Ce 5 mai, vous avez eu une synthèse en 5 minutes. Philippe Séguin déplace le point de vue de plusieurs dizaines de députés du RPR. À pas d'heure, juste avant le petit matin, l'exception d'irrecevabilité qu'il défendait est certes refusée par une forte majorité, mais il a réussi à rendre visible la fracture de la droite sur la question européenne. Première victoire. Et la saga continue moins d'un mois plus tard, le 2 juin 1992.
Bonjour. Consternation à Copenhague et à Bruxelles, silence à Paris et à Bonn, les Danois ont dit non à Maastricht, courte majorité, 50,7 contre 49,3, 46 000 voix d'écart pour un référendum à forte participation. À la surprise générale, les Danois ont voté contre le traité d'Union européenne. Les partisans du non ne l'ont emporté que de quelques milliers de voix, mais les électeurs, passionnés par le débat européen, se sont déplacés massivement. Il y a eu près de 83% de votants. Pour les dirigeants danois, c'est une gifle. Tous, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême gauche, avaient fait campagne pour le oui, y compris le patronat et les syndicats, main dans la main. Le vote négatif des Danois ouvre une nouvelle crise européenne. L'application du traité est juridiquement impossible en cas de défaillance d'un État membre. Reste la volonté politique d'aller de l'avant, exprimée il y a 10 jours par François Mitterrand et Helmut Kohl.
Mais le nom danois n'oblige aucunement François Mitterrand à questionner directement, lui aussi, le peuple français. Il peut poursuivre la procédure parlementaire engagée. Mais le président est un joueur. En privé, il confesse que depuis 40 ans, l'Europe est une affaire de despotisme éclairé et qu'il est temps de sceller le projet par le vote populaire. S'il l'emporte, il prendra place dans la galerie des pères de l'Europe et comme un des plus démocrates. S'il perd, ce sera une belle chute. Quitte ou double, il dévoile son choix devant un conseil des ministres stupéfait et oblige Pierre Bérégovoy à l'annoncer à l'Assemblée.
J'ai eu l'occasion de dire que nous serions attentifs à ce qui serait exprimé par les uns et par les autres, par l'opinion publique, par les partis politiques, par les partisans de l'Europe et par les adversaires de l'Europe. Et c'est pourquoi le président de la République a décidé ce matin que la ratification du traité lui-même relèvera du vote populaire. Ainsi, chaque formation politique, chaque parlementaire, chaque représentant de l'opinion sous une forme ou sous une autre pourra exprimer son sentiment et ce sont les Français qui trancheront. Est-on pour ou contre l'Europe ? Les Français le diront. Et pour ma part, j'ai confiance dans leur jugement parce qu'en effet, l'Europe, c'est la voie de la paix et de l'avenir pour notre pays.
Un autre référendum a eu lieu cette année-là, 1992. Les habitants de Bosnie-Herzégovine, une grande majorité, ont voté l'indépendance de leur pays. Aussitôt, les milices serbes ont bouclé le siège de Sarajevo qu'elles préparaient depuis longtemps. Guerre terrible entre voisins qui peu auparavant frayaient ensemble. Impuissance de l'Europe. Jean d'Ormesson prévient dans le Figaro. Je ne donne pas cher de l'Europe et de ses dirigeants si quelque chose n'est pas fait pour empêcher le massacre. Fin juin, François Mitterrand avertit ses collègues au sommet de Lisbonne. Faute d'initiative commune, chaque pays doit faire jouer ses relations particulières. Et de la capitale portugaise, voici qu'il s'envole, sans prévenir davantage, pour Sarajevo. Ce voyage, qui a surpris beaucoup, n'apparaît pas à la relecture pour ce qu'il parut à l'époque. Le président n'était pas accompagné de son ministre des Affaires étrangères, mais du secrétaire d'État à l'humanitaire, Bernard Kouchner. Il venait saluer des victimes, mais n'entendait pas faire pression davantage sur Milosevic, le président grand serbe. Mais sur le moment, c'est le courage de ce vieux président de 75 ans qui a impressionné. Et le 14 juillet, traditionnel moment de rendez-vous avec les journalistes, François Mitterrand, qui a juste enlevé le gilet pare-balles, continue sur ce registre. Étonnez-nous !
Monsieur le Président, presque toujours, le référendum en France prend un caractère de politique intérieure, un caractère plébiscitaire. Alors comment est-ce que vous pouvez concilier un engagement fort et éventuellement, si c'était le succès du non, ne pas mettre en cause votre personne?
Vous ne m'avez jamais entendu dire l'Europe de la communauté, c'est ma propriété. Je n'ai pas dit et je ne dirai pas aux Français, si vous votez pour l'Europe, vous votez pour moi. Ce serait un abus de pouvoir, une interprétation erronée. Ce serait même un peu malhonnête.
Mais ils peuvent le penser comme ça.
Mais certains ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit aussi de ne pas réfléchir. Mais quand on engage un acte aussi important, on réfléchit. Et les Français, croyez-moi, sont mieux informés que vous ne croyez. Ils ne sont peut-être pas informés sur les détails de ce traité. C'est d'ailleurs difficile, d'une matière épaisse et un peu complexe. Mais sur l'essentiel, ils comprennent très bien. Ils comprennent très bien que l'Europe, c'est la paix. Et ceux qui savent ce qu'a été le prix de deux guerres mondiales n'en veulent plus. D'une part, et d'autre part, ils se rendent compte que s'il n'y avait pas d'Europe, il y aurait quand même les concurrences. Ce n'est pas parce qu'il n'y aurait pas l'Europe de Maastricht qu'il n'y aurait plus l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne et les autres. Simplement, ils se combattraient dans le désordre au lieu de s'organiser.
À Sarajevo continue le siège, mais les vacances commencent en France. Sacro-sainte à des succès de cet été 1992 avec les Négresses Vertes.
Béni ma chère, béni mes os. Ay, toi, les gars, toi, les gars. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Il y a 25 ans, Maastricht Saga, l'épopée de la ratification de 1992, rien qu'avec des archives. Avant l'été, les socialistes et les membres de la droite qui voulaient voter oui à Maastricht avaient tenté de faire estrade commune, mais comme Giscard d'Estaing préférait quitter la tribune sans saluer la ministre des Affaires européennes, Elisabeth Guigou, ça n'avait pas été très concluant. En août, Philippe Séguin, lui, réussit beaucoup mieux en faisant cavalier seul. François Fillon, alors l'un de ses lieutenants, note dans Historia de ce mois d'avril 2017, il s'imposait à des salles parfois hostiles, il obtenait un silence tendu par l'exigence de sa pensée, il cherchait à inspirer l'estime du fait politique.
Dédicace à la Baule l'après-midi, réunion publique le soir à Beaufort-la-Vallée. Et là, Philippe Séguin, pendant 1h30, explique, argumente, parle de la Yougoslavie pour souligner l'impuissance de l'Europe.
On prête à la communauté européenne, dans le domaine de la politique étrangère, plus d'ambition qu'elle ne peut en assumer et que la plupart des pays qui la composent ne veulent en assumer. Parce que si la communauté fait si peu de choses s'agissant de la Yougoslavie, si on perd son temps à Bruxelles quand on parle de la Yougoslavie, c'est pourquoi ? C'est pas parce qu'on manque de moyens, des moyens qui nous viendraient après Maastricht, pas du tout. C'est tout simplement qu'on manque de volonté politique.
Le temps est venu de passer à la vitesse supérieure, comme on dit de manière triviale, de mettre le turbo. Je souhaite que, un peu partout, les uns et les autres, quelle que soit leur appartenance politique, battent leur appel des combattants de l'avenir, comme on pourrait dire sur le terrain de sport, allez les oui.
Entre la tournée des plages des jeunes socialistes et le lancement du comité des stars, le oui en campagne est resté longtemps sur le petit braquet. Le changement de vitesse est intervenu en début de semaine, les gros cylindrés du oui entrant enfin en campagne, à gauche mais surtout à droite, le camp le plus divisé sur le sujet. Aujourd'hui, Jacques Chirac à son tour est monté au créneau, pour un oui qui qualifie de raisonné, et pour montrer que c'est l'opposition unie qui fait campagne, le 2 septembre, une quarantaine de personnalités de l'UDF et du RPR tiendront une réunion commune.
Notre oui à l'Europe est un oui responsable. Nous ne voulons pas que la France s'isole en Europe. Nous ne voulons pas prendre le risque que la France déstabilise l'Europe. Nous ne voulons pas que la France soit en quelque sorte le mouton noir de l'Europe.
On aura reconnu Nicolas Sarkozy, et avant lui, dans un voisinage inattendu, Jacques Lang, alors ministre à la fois de l'Éducation nationale et de la Culture, autant dire de l'intelligence et de la beauté. La campagne de signature de vedettes qu'il entreprend, téléphone au point, ne suffit pas cependant à enrayer l'érosion régulière du oui, puisque fin août, pour la première fois, les courbes se croisent, pour reprendre le vocabulaire des entreprises de sondage. Alors, nouveau coup de poker de Mitterrand. Il accepte la proposition que lui font TF1 et Guillaume Durand d'un long débat en direct au Grand Amphi de la Sorbonne. Comme interlocuteur pour défendre le non, Mitterrand préfère Philippe Séguin à Charles Pasqua, qu'il pratique pourtant depuis plus longtemps. La confrontation commence avec un panel de 15 Français dont on a éloigné tout sympathisant du Parti communiste comme du Front national. Et dans l'affrontement qui suit, Philippe Séguin surprend par sa relative retenue.
Quant au traité lui-même, vous l'avez sous les yeux, c'est une bonne précaution, mais moi je le connais assez bien. Pas besoin de l'avoir.
Je ne l'ai pas négocié, monsieur le Président.
Pour vous dire que...
Ça,
oui, oui, non, mais c'est un avantage indéniable que j'ai eu, qui me permet d'avoir une connaissance plus ancienne et peut-être plus profonde. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la plupart des dispositions de ce traité, il est reconnu aux États un pouvoir en dernier ressort de décider sa sauvegarde et sa sécurité.
Je ne trouve rien de tel pour ce qui me concerne dans le traité, monsieur le Président.
Chacun le lira.
Tout ce qui est de la compétence des États peut éventuellement se discuter, dès là paraîtrait que la communauté ferait mieux que les États dans le domaine considéré.
Si les États l'estiment, et s'il l'estime à l'unanimité, ce qui laisse toujours au gouvernement français la possibilité d'arrêter une opération qui lui déplairait.
Ce qui est une bonne transition vers ce système fédéral qu'on nous annonce pour plus tard. Vous êtes vous-même...
Moi, je ne l'ai pas annoncé, je ne sais pas.
Vous avez je n'ai pas exprimé annoncé, votre direction, monsieur
non,
le Président.
Non, je ne l'ai pas annoncé, mais il me conviendrait.
Absolument. Oui. Je le réprouve totalement.
Mais si vous ne le réprouviez pas...
Je ne serais pas devant vous, monsieur le Président.
La France est notre patrie, répète François Mitterrand à la Sorbonne. L'Europe, notre avenir. Elle est une victoire sur nous-mêmes. Une victoire sur nous-mêmes. Si Philippe Séguin a retenu ses coups ce soir-là, c'est qu'il a enregistré l'état de santé du président, même si celui-ci ne veut rien en laisser paraître. Le député des Vosges a le respect de l'homme et le respect de la fonction. Le cancer de François Mitterrand a rebondi. Le président a passé un été épouvantable. Une opération s'impose, qu'il a retardée au lendemain du débat. À chacune des pauses publicitaires, il s'est absenté pour se faire traiter en coulisses par ses médecins. Le 10 septembre, ajoutant à la dramatisation du scrutin qui approche, François Mitterrand est hospitalisé à Cochin. Les Français sont enfin informés de son état de santé réel. Mais le 16 septembre, il réapparaît, descendant l'escalier de l'hôpital, presque gaillard, accompagné du professeur Steg et du professeur Bernard Debré, député RPR. Le président semble amusé.
Président, vous avez souhaité toujours beaucoup de transparence sur votre état de santé, donc je comprendrai qu'on vous demande si vous pensez aujourd'hui continuer vos activités ou si vous avez songé à les abandonner, à démissionner.
Non, je n'ai pas encore songé, non. Il n'y a pas de raison. Je ne pense pas qu'on m'ait enlevé un lobe du cerveau, car c'est pas de ce côté-là que ça se passe. Je pense que c'est un combat honorable à mener contre soi-même.
Est-ce que vous pensez que si vous allez à l'Élysée, ça sera une vraie convalescence?
Oh, l'Élysée est bien tenue, vous savez. Je serai là-bas, je travaillerai un peu quand même. J'ai déjà éclusé une partie du courrier tout à l'heure. Et puis, dimanche, ça va être une journée de vacances, grâce au référendum. Je serai donc à Château-Chinon. Lundi et mardi, je serai en demi-teinte. Et mercredi, eh ben, si tout va bien, et il n'y a aucune raison que ça aille mal, je serai au Conseil des ministres.
Dimanche, ce sera ric-rac, 51% de oui, 49% de non, une différence de 500 000 voix. Le traité de Maastricht entre dans la vie française, mais pas par l'arc de triomphe qu'on imaginait quelques mois auparavant. Peut-être par la petite porte, d'aucuns diront par l'issue de secours. Nous vous laissons juge, le tournant a-t-il eu lieu cette année-là ou un peu plus tard ? L'émission était préparée par l'équipe de la Marche de l'Histoire. Franck Olivard, Frédéric Martin, Linka Negulesco, Nathan Gallo à la réalisation, Valérie Aestaraï à la technique, Mehdi Fatah.